On va prendre un peu l'enseignement qu'on a, ce qu'on a pris maintenant. On a vu la vie du roi David jusqu'à l'âge de 28 ans. Jusqu'à l'âge de 28 ans, il est considéré comme un enfant non légitime. On ne sait pas qui est son père. Certainement, comme j'ai dit hier, un Écossais qui est passé dans le coin. Il est le bouc émissaire de tous les malheurs qu'il y a à Bethléem, tous les vols, tous les... Il se fait spolier, insulter, et sa mère, évidemment. C'est pas mieux. Sa mère connaît la vérité. Elle sait que son fils David est un homme pur, un sadique. Et non seulement qu'elle sadique, mais les deux sachant qu'ils sont innocents, donc arriver à subir toutes les insultes des gens, tous les regards, toutes les accusations, et malgré tout, de ne pas finir dans un asile psychiatrique, c'est assez extraordinaire. Alors, comment est fait David? Première chose qu'il faut apprendre, c'est que lorsque Dieu envoie des épreuves à la personne, et là on voit 28 ans des épreuves les plus dures qu'il puisse y avoir, qu'est-ce que veut Dieu? Dieu veut faire grandir la personne. Quand quelqu'un est élevé dans le coton, ben il reste cotonneux, ça veut dire rien du tout, une nouille. Un athlète, comment il devient athlète? S'il met ses biceps dans le coton, il n'aura jamais de gros biceps. S'il fait des efforts, et bien forcément, le muscle va grandir. Idem dans la vie. Parce que la personne reçoit des tuiles sur la tête. Alors personnellement des tuiles, parce que c'est pas agréable. Il est évident que le seul moyen de grandir, c'est face à l'épreuve. Quand quelqu'un a vaincu une épreuve, c'est quoi vaincre une épreuve? C'est il a survécu. Quelqu'un a survécu à une épreuve, c'est certain qu'entre avant et entre après, il est beaucoup plus grand. Et Dieu sait que le roi David est censé devenir le roi du peuple d'Israël, le roi. C'est le seul roi sur lequel on dit David, Melech Chai Vekayam. Le roi David, il est vivant. Ça veut dire que sa présence est là et on attend que son... Très rapidement de nos jours, son descendant se dévoile, le Mashiach. Donc un roi pareil ne peut pas être un petit. Donc dès l'origine, déjà Dieu a préparé un programme d'entraînement. Training, hard training, un entraînement difficile pour devenir le roi d'Israël. 28 ans. Regardez la réaction de David. Chazal disent que lorsque... Donc il rentre dans la chambre, ou dans la salle où il y a tous les notables de Bethléem, son père, ses frères. Shmuel Hanavi se dit, il est rouquin, c'est un assassin. Dieu dit non. Il est fait Naïm, il va aller d'après le Sanhedrin. Et Dieu dit à Shmuel, tu te trouves devant Meshach Hashem, devant le oint de Dieu, tu es assis, lève-toi! Lève-toi et... Sacre-le, et lui, il a carrément sauté sur la tête de... et monté vers David Améler. Et sa mère qui est dehors, Mitzévet, qui se met à pleurer, 28 ans de douleur qui maintenant... La reconnaissance enfin que son fils, non seulement est innocent, mais c'est un super grand, énorme sadique, un géant de géants. Quelqu'un qui vit ce moment-là, quelqu'un de normal... Il va régler les comptes un peu. Ou il va se dire, ah, sauf, tout le monde voit qui je suis. Je suis le roi. Réaction de David. Tehilim 131. Cantique des degrés de David. Seigneur, mon corps n'est pas gonflé d'orgueil. Mes yeux ne sont pas altillés. Je ne regarde pas de haut. Rien n'a changé pour moi. J'étais ce que j'étais, je n'ai pas changé roi par roi, je suis le même David. Pas un millimètre à changer, pas une pulsion cardiaque supplémentaire, égale à lui-même. Quel est le secret? Le secret, c'est le verset suivant de ce même Tehillim, qui pour nous c'est un enseignement, parce que qui dans ses biens n'a pas des épreuves? Que les nuls, d'accord? Alors, nous ne sommes pas des nuls, on ne veut pas être des nuls, donc il y a des épreuves, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors comment on fait pour réussir dans l'épreuve? Grandir l'épreuve? Pas s'enorgueillir lorsqu'on a réussi l'épreuve? On va prendre un exemple. Quelqu'un prend l'avion de Paris pour arriver à Jérusalem. On lui demande, en route, on l'appelle, c'est un portable, où es-tu? Là, je suis dans le taxi pour CDG. Prends l'appel, où tu es? Je suis dans l'avion, on va bientôt décoller. Prends l'appel, où tu es? Au-dessus de la Grèce. Là où tu es, on a atterri, là, je suis en train d'attendre mes bagages à Lod. Là où tu es, je suis dans le taxi qui amène à Jérusalem. Là où es-tu? Enfin, je suis arrivé à la Yeshiva, Baruch HaShem. Un homme adulte. On demande les mêmes questions à un nourrisson dans les bras de sa mère. C'est le même voyage. On l'appelle avec un portable, on peut dire le nourrisson s'exprime, d'accord? On dit, où es-tu? Là, je suis dans les bras de maman. Attends, maman est dans le taxi. Un peu plus tard, il rentre dans l'avion à CDG. Où es-tu? Dans les bras de maman. Attends, maman, au-dessus de la Grèce. On l'appelle au téléphone. Où es-tu? Dans les bras de maman. Il atterrit maintenant à Lod. Où es-tu? Dans les bras de maman. Où es-tu? Dans les bras de maman. On est dans le taxi vers Jérusalem. Et à Shiva, toujours dans les bras de maman. Le roi David dit, au contraire, j'ai apaisé et fait taire mon âme, tel un enfant sevré reposant sur le sein de sa mère, tel un enfant sevré, mon âme est calme en moi. Le truc, le voici. Quand quelqu'un, il est comme un enfant, un nourrisson dans les bras de Dieu, les bras de sa mère. Comme ça dit le roi David. Oh, t'es roi, t'es pas roi, t'es avant, t'es après, t'es en train de fuir, t'es en train de gagner. Pff, qu'est-ce que ça change? Moi, je suis... Tout ce qui m'arrive... T'as une boussole. Tu sais où tu es. T'es toujours en contact direct avec les notions éternelles. Maïmonide, dans une lettre qu'il a écrite au sultan. C'était à l'époque qu'il était en Égypte. Le sultan s'appelait Saladin. C'est le fils de Saladin. Salahadin en bon hébreu. Et ce sultan était en déprime. Sachant que Maïmonide est un très grand docteur, il lui demande, donne-moi un peu le truc, un truc médical pour sortir d'une déprime. Je ne peux pas tout vous raconter. Cette lettre, on peut l'acheter, c'était traduit en français, ça s'appelle « Guérison par l'esprit » de Maïmonide. C'est un livre gros comme ça. La lettre fait 3 pages, et puis tu as 100 pages avant, 100 pages après de commentaires. Mais la lettre de Ramam, elle fait 3 pages. Elle dit très simplement... Il y a une partie en nous qui est imaginative, qui est sensible, qui est touchée par ce qui nous arrive. Puis une partie en nous qui est le sechel. Le sechel, c'est l'esprit pur, la raison. La raison, elle voit les choses avec vérité. L'imagination, elle voit avec des films, avec des sentiments, avec des mensonges, forcément avec des images. Imagination, des images qui ne sont pas dans la réalité. Un jour t'es comme ci, un jour t'es comme ça. Bonne journée, t'es content. Mauvaise journée, t'es malheureux. Et vu que d'habitude, dans ce monde-ci, il y a plus de mauvaises journées que de bonnes journées, donc toute ta vie, tu vas à la tête par terre. Il faut que tu t'accroches à une chose qui est une réalité qui est éternelle, qui est au-dessus de tout. Qui est insensible au vent, au changement de température, au changement de temps qu'il y a, aux tempêtes ou au beau temps, à que je vous retrouve. Comme un enfant sur le sein de sa mère, nous dit le roi David, j'ai apaisé et fait taire mon âme. Tel un enfant, c'est vrai, mon âme est calme en moi. Je suis dans les bras de Dieu, quelqu'un qui... Et ça, c'est un exercice de toute la vie. Pourquoi Dieu envoie des épreuves? Rien que pour ça. En général, le but de toutes les épreuves, c'est ça. Emouna, ça veut dire renforce-toi dans de la foi en Dieu. Parce que c'est la seule solution, il n'y a pas d'autre. Et quelqu'un qui a vécu des épreuves et qui a su à ce moment-là regarder vers Dieu, il a vécu son épreuve de façon beaucoup plus facile, voire sereine s'il est au niveau. Finit ce Tehillim, qu'Israël mette son attente en l'Éternel, désormais pour l'éternité. C'est-à-dire, David nous dit, si le roi David, c'est une leçon pour Am Israël, pour l'éternité. Mettre son attente, comment on dit en hébreu, Yahé Israël El Hashem. Branché vers Dieu. On reconnaît que le roi David est roi, mais c'est qu'à Bethléem, chez les notables, on laisse un secret parce que le roi, c'est le roi Shaoul. Et si un autre roi à la place du roi, ben, il se coupe la tête. Que fait Akjouboukou? Il envoie une maladie de déprime, même plus que cela, de rouahra, de mauvais esprit, qui va se mettre à habiter Shaoul. Shaoul est pris de crise comme ça, d'angoisse, où il commence à dire un peu divaguer des bêtises. Et on comprend que ce n'est pas une chose qui est d'origine normale. Un type en déprime, alors on amène un peu de musique, on lui met comme ça des choses, la musique, ça met de bonne humeur. Mais ça, le roi Shaoul lui-même, sachant que ce qui lui arrive n'est pas d'ordre normal, rationnel, demande qu'on lui amène un musicien qui soit aussi un tzaddik. Un homme qui a vraiment des bonnes midotes, quelqu'un qui, avec sa lumière, pourra faire fuir un peu plus l'esprit du mal. Et un de ses serviteurs lui conseille, il y a un berger, David, Minashamayim. Shaoul ne connaît pas David, c'est pas qui il sait. On l'amène, il devient le chantre, l'écuyer, le second du roi Shaoul. Pourquoi Dieu fait ça? Le roi, lentement, va perdre ses capacités de gérer le royaume, et peu à peu, David va commencer à être le gestionnaire. C'est lui qui va amener l'armée, venir, sortir, avec l'armée entière. Il gère, c'est le second du roi. Et un beau jour arrive le combat du peuple d'Israël contre les Philistins. Le camp des Philistins est sur une colline. Le camp des Juifs d'Israël est sur une autre colline. Entre les deux, il y a une vallée, la vallée de Haéla, c'est une petite demi-heure de Jérusalem. Et les trois fils aînés de Ishaï sont partis au combat. David, non. David reste. Donc, de temps en temps, il est au royaume. Et lorsque le roi part en guerre, par exemple, lui, il rentre chez lui, il continue à paître les troupeaux de son père Ishaï. Ishaï, le père, appelle son fils David. David, va mon fils, va voir comment vont tes frères. Amène-leur aussi un peu de petits colis comme ça de nourriture. Donne aussi un colis à leur chef, comme ça, qui s'occupe bien d'eux. Et amène Arubatam. Arubatam, disent Chazal, c'est à mettre un guet. Amène un guet. À l'époque, tous les soldats du peuple juif qui partaient à l'armée et qui étaient mariés donnaient un acte de divorce à leur femme. Pour qu'en cas où ils sont portés disparus, il n'y a pas de témoignage, personne n'a vu le corps mort du mari. D'après la loi, si cette femme n'est pas divorcée, le mari a disparu, on n'a pas de témoignage, elle est agoune, elle ne peut pas se remarier. Donc c'est pire que veuve, peut-être elle est vraiment veuve. Son mari en tout cas n'est plus là, dans tous les cas de figure, mais peut-être il est vivant. Donc s'il est vivant, cette femme est encore mariée, donc elle ne peut pas se remarier avec un autre parce qu'elle serait une femme adultère, les enfants seraient des bâtards, des mansérines, etc. Donc pour éviter cela, on a interdit à la femme de se remarier. Pour parer à ce problème épineux, tous les soldats, avant de partir à la guerre, donnent un acte de divorce à leur femme. Les trois fils de Ishaï, qui sont pas de combat, n'ont pas encore donné leur... Ils sont partis rapidement, ils n'ont pas donné encore leur guette. Donc Ishaï envoie David pour aller prendre aussi le guette, l'acte de divorce, de leur femme. David arrive au campement, et tout à coup, qui sort du rang des Philistins? Goliath le géant. Un géant énorme, affreux, avec un homme qui le précède avec une cuirasse, avec un bouclier énorme. La Torah donne le poids de la lance de Goliath, énorme, le fer de lance, le poids aussi de sa cuirasse, Il a une cotte de maille, donc depuis le haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Rien. On ne voit rien. Il n'y a que lui. Rien. Et Goliath s'adresse à l'armée israélienne. On dit, pourquoi est-ce qu'on va faire l'armée? On va faire la guerre armée contre armée. Sortez un de vous, choisissez un homme, qui vient se battre avec moi en duel, et celui qui gagnera l'autre, le peuple sera vaincu. Choisissez un homme, c'est marqué dans la Torah, dans la Bible, Barou lachem ish. Choisissez un ish, un homme. Chazal disent, de qui parlait ish? Hashem ish milchama. Dieu est l'homme de la guerre. C'est marqué comme ça dans la Shira, lorsque Bnei Israël traverse la mer, après la mer, ils font une Shira, un chant à Dieu, et disent, Dieu est l'homme de la guerre. Ish milchama. Goliath, il a blasphémé, il dit, amenez-moi, je veux voir votre Dieu. On va voir, qui se frotte un peu à moi, je vais m'en occuper. Il blasphème. David, qui toute sa vie est proche de Dieu, il entend ça, mais pour qui se prend cet incirconcis? Je vais aller, moi, régler son compte. Le grand frère de David entend ça, il dit, David, rentre à la maison, qu'est-ce que tu fais là? Allez, dégage. Qui t'a permis de venir? David lui répond. Il lui répond, de quoi tu es au courant? Notre père, m'a envoyé. Et il parle aux gens, il dit, il paraît, qu'est-ce qui se passe? Et les gens lui disent, oui, le roi Shaoul, il a dit que celui qui allait se battre contre Goliath, alors le roi Shaoul lui donne le nom à sa fille, elle allait l'enrichir, beaucoup. Bon, en fin de compte, le bruit arrive chez le roi Shaoul que David, son écuyer, veut aller se battre contre Goliath. Shaoul dit, ok, viens. Shaoul voit David, il dit, t'es jeune encore, t'es le patron de Goliath. David dit, je comprends pourquoi, maintenant. 28 ans, j'étais dans le désert. Mon père m'envoyait dans un endroit les plus dangereux. Des endroits terribles. Là-bas, il y avait des tigres, des ours. Et un jour, un ours, il a attrapé une des brebis. Je cours derrière, j'ai attrapé l'ours et j'ai réussi à le tuer. Idem le tigre. C'est pas normal. Je sais que les choses dans ma vie n'arrivent pas pour rien. Les choses nous arrivent dans la vie, messieurs, c'est pas pour rien. On veut nous faire grandir parce qu'on nous attend pour une épreuve, pour quelque chose d'encore plus grand. Maintenant, je comprends, dit David. Pour que je n'ai pas peur de me battre contre Goliath. Shaoul dit, ok, tiens, prends mon armure. Le texte de la Bible raconte que David a mis l'armure et il dit, l'onicity, je ne suis pas habitué, moi je vais m'aller relax. Chazal dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le roi David a porté l'armure du roi Shaoul, Shaoul était beaucoup plus haut que n'importe quel autre juif. C'était un homme très très haut. Et David était assez petit. Donc l'armure devait lui arriver au genou, la cuirasse devait lui arriver à la ceinture. Il met l'armure, truc, et lui va comme il faut tout à coup, par miracle. Shaoul a compris, il y a un truc bizarre ici. Shaoul savait, Shmuel lui a dit. Lorsque Shaoul n'a pas attendu Shmuel les 7 jours pour sacrifier avant de partir au combat, Shmuel lui a dit, pourquoi tu as désobéi? Dieu, maintenant, tu devais avoir une royauté éternelle. Dieu va te retirer la royauté et la donner à quelqu'un de mieux que toi. Il a compris cet avis. Il devient tout blanc. David voit la tête de Shaoul. Un truc qui cloche, il a compris tout de suite, il y a un truc qui cloche. David sait qu'il est roi. Non, c'est pas pour moi. Je lui relax. Il part au combat. Avant de partir au combat, qu'est-ce qu'il prend? Il prend dans le torrent, dans le lit de la rivière, il prend 5 pierres lisses. Pourquoi 5? Alors, il y a 2 raisons évoquées. Une évoquée en blaguant, on dit que David était à l'origine des Tunisiens. L'autre qui est marqué dans Chazal, qu'il a pris 5 par rapport aux 5 livres de la Torah. Parce que Goliath insultait aussi la Torah des Juifs. Even, c'est la pierre. J'explique souvent ici que la pierre, c'est la chose qui symbolise l'éternité. Le domaine minéral, végétal, animal, humain. Donc végétal, animal, humain, les animaux ont une progression, un âge adulte, vieillissent, disparaissent, deviennent poussière. Idem végétal, idem humain. La pierre reste elle-même. Le peuple d'Israël, grâce à sa Torah, reste éternel, un peuple éternel. Plus profondément, c'est marqué dans Rashi, dans Parashat Vayechi, Roev en Israël, c'est Roev en Israël, Dieu est le berger de la pierre d'Israël, donc Israël est comparé à une pierre. Alors Rashi dit là-bas, c'est quoi Even? C'est la contraction de deux mots, Av et Ben, père et fils. Pourquoi sommes-nous un peuple éternel? On n'est que 15 millions aujourd'hui, ou même un peu moins. On aurait dû être normalement presque un demi-milliard. Prenons une courbe démographique normale. Beaucoup se sont assimilés, beaucoup ont été massacrés. Lorsque le père enseigne à son fils la Torah, comme dit l'Halakha, dès que le fils est parlé, on enseigne Shema Israël, et Torah Tsevala no Moshe Morasha Kilat Yaakov. Et la Gemara dit, si on fait pas ça, c'est comme si on enterrait le fils. Parce qu'au lieu de faire partie du peuple éternel d'Israël, il devient un goy. C'est 6000. Si pas lui, son petit-fils. Si son petit-fils, son arrière-petit-fils. Regardez. Regardez aujourd'hui dans le monde entier. T'as peu de familles juives où t'as pas un cousin, un tante, ou plusieurs qui sont déjà en voie d'assimilation. La garantie, c'est pas toujours, mais la garantie la plus grande que nous puissions avoir de la pérennité, d'éternité du peuple d'Israël, l'enseignement de la Torah. Even. Le roi David prend 5 pierres par rapport à la Torah, les met dans sa poche, et s'avance contre Goliath. Comment il s'avance? Rambam, Maïmonide, d'ailleurs, d'un télim du roi David, donne une halakha de combat. Comment on doit se battre? On s'est marqué dans Maïmonide, Ilchot Melachim, les lois concernant les rois et leur guerre, chapitre 7, fin de la halakha 15. Je vais tout vous lire, parce que c'est intéressant. Donc on est censé bientôt se battre contre Gog ou Magog. On apprend comment on se bat. D'abord, celui qui est un peureux, et que le cœur faible, il ne part pas en guerre. Avant de partir en guerre, le Kohen Mashiach, il passait en les rangs du peuple juif, celui qui sent qu'il a peur, qui rentre à la maison. Peur de quoi? Peur de ses péchés. Faut faire tchoua. Le roi David sait qu'il n'a pas de péché, ou sinon il a fait tchoua déjà dessus. Au Mahar, chez Kalef Pikishra Milchama, dès qu'il rentre déjà dans le combat, Isha'en al Mikve Israël. Il doit s'appuyer sur le Mikve Israël. Mikve, c'est quoi Mikve? C'est le mot tikva, l'espérance d'Israël, l'espoir d'Israël, sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Ou Moshio est le sauveteur du peuple d'Israël. Beit Sara, lorsque ça va mal pour le peuple d'Israël, qui nous sauve? Que je vous roule. Veyeda, et qui sache. Shalechud Hashem ou Osem Milchama, que pour l'unité de Dieu, il est en train de se battre. On ne se bat pas maintenant pour des territoires, on ne se bat pas maintenant pour sauver nos femmes, nos enfants. On est Am Israël. On parle maintenant de guerre sainte, d'accord? Du temps du roi David ou de Gog ou Magog. C'est à peu près les deux cas de guerre sainte que nous connaissons. Nous sommes en train de. C'est la bataille d'Akadosh Baruch Hu que nous faisons. On est un soldat de Dieu. Je me bats maintenant pour le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Ve'asim nafsho bechapo, et qui mette son âme dans la paume de sa main, c'est-à-dire qu'il soit prêt à mourir. Ve'lo yira, défense d'avoir peur. Ve'lo yifrad, défense de terroriser. Ve'lo archov, lo beishto, défense de penser à sa femme. Ve'lo bevanav, pas à ses enfants. Genre, je vous dis, pas à ses parents, et pas à ses cousins, cousines, et pas à n'importe qui. Il doit effacer leurs souvenirs de son cœur. Je ne connais pas. Et toute sa concentration que dans la guerre. Tout celui qui commence à penser à la guerre, on va aller au combat. Qui sait si dans une humeur je vais être encore vivant. Il se met à, comme ça, à se mettre en état d'imagination de peur. En vert, Belota se transgresse un lave de la Torah, une interdiction de la Torah. Les 613 mitzvot. Chenemar, comme il est dit, Al Irach Levavrem, n'ayez pas peur, Al Tiraou, ne soyez pas terrorisés, Val Terpezou, de nouveau en même terme, Val Tarsou, même terme, n'ayez pas peur, deux. Défense d'avoir peur. Lave de Torah est à manger du porc. Belod, non seulement cela, elle a chekol de Meisret Louin Betsavaro, tout le sang des juifs qui risquent de mourir, dépendent de lui retomberont sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'un qui a peur, c'est communicatif. Il va au combat, tout coup, on entend ses genoux, clac, 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 le voisin qui voit, clac, 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 il se commence aussi à faire clac, 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 clac. Et si tu pars comme ça au combat, t'es mort à l'avance. Si au contraire tu es souriant, t'es confiant, on va aller, les chèmes HM, on va gagner, alors tu donnes du courage à tout le monde. Vimlo nitzeach, velo asa milchama, bechol libo, bechol nafsho, arezé kimi shvach de mea kol. Et si il s'est pas battu, il a pas gagné, il a pas fait la guerre de tout son pouvoir, de tout son cœur, tout son pouvoir, c'est comme s'il a assassiné le sang de tous. Là, tu dois oublier tout. Tu es une machine à te battre pour Akadosh Baruch Hu. Et comme ça est parti le roi David au combat. Tout celui qui part se battre de tout son cœur. Sans crainte. Et son intention sera uniquement, exclusivement de sanctifier le nom de Dieu. Il y a une promesse. Il ne va pas se faire toucher. Et aucun mal ne peut l'atteindre. Il aura une descendance, une maison, donc une descendance dans Israël. Il aura du mérite, lui et ses enfants, pour l'éternité. Il aura la vie du monde futur. Il amène un verset ici qui concerne le roi David. Le roi David, il part maintenant, il dit que pourquoi je peux me battre contre Goliath? Je veux des honneurs, roi David. Il est déjà roi, il a besoin d'honneur. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'on l'applaudisse. Cet incirconcis a blasphémé Akadosh Baruch Hu, qui depuis 28 ans me protège tous les jours. Qui c'est celui-là contre Akadosh Baruch Hu? Je vais le montrer, c'est quoi? Lui, avec son bouclier, comment il lui dit? J'ai oublié de vous amener ça, je vous dis oralement. Il lui dit, toi tu viens. Alors il vient avec son bâton. Il y a une Bible en français? Donne-moi une Bible en français. Là, il n'y a pas. Comment il lui dit, le roi David, Samuel 1, chapitre 17. L'histoire que j'ai souvent racontée ici, mais elle est tellement belle. Voilà, on va lire dedans. Aujourd'hui, on n'a pas. Mais car on aura un roi qui va venir, le Mashiach, et là, on fera ce qu'il nous dira comme il faut. Aujourd'hui, on est en exil. Mais tu as d'autres batailles. C'est vrai que si aujourd'hui quelqu'un. J'imagine qu'aujourd'hui, quelqu'un qui part au combat dans les guerres d'Israël, qui sont des guerres de défense, c'est vrai que s'il part maintenant, en sachant qu'il se bat maintenant pour Am Israël en tant que le peuple de Dieu, manifestation du peuple de Dieu sur terre. Et dans ces cas-là, il y a une promesse du Rambam. C'est pas Rambam. C'est Rambam, il ramène les écrits de la Torah, promesse de Dieu. Et ça veut dire. Mais. Fachouba. Fachouba. Je vous lis un peu des beaux passages ici. David répondit à Shaoul. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand survenait le lion ou l'ours et qu'il emportait une bête du troupeau, je le poursuivais, je le terrassais et je lui arrachais de la gueule. Alors il se jetait sur moi, mais je le saisissais par la mâchoire et le frappais à mort. Puisque ton serviteur a eu raison du lion et de l'ours, comme j'expliquais auparavant, ce Philistin circoncis aura le même sort, lui qui a défié les légions du Dieu vivant. Et David ajouta, l'Éternel qui l'a protégé contre le lion et l'ours me protégera aussi contre ce Philistin. Donc il a appris les épreuves du passé. Shaoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Un peu plus loin, Il prit son bâton à la main, choisit dans le torrent 5 cailloux lisses qu'il mit dans sa panetière de berger, et muni de sa fronde s'avança vers le Philistin. Celui-ci s'approcha lentement de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin, considérant David, le regarda avec dédain, parce qu'il était jeune, vermeil, rouquin et de bonne mine. Il dit à David, « Suis-je un chien que tu t'avances contre moi avec des bâtons ?» Parce que David, il a son bâton, donc, de berger, relax. Il maudit David en invoquant son Dieu. Il blasphème. Le Philistin dit à David, « Viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. » David répondit au Philistin, « Tu viens avec moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu viens avec l'arme physique. » Ok, tu es un super géant physique, tu es le plus grand, invincible du monde, c'est vrai. Et moi je viens au nom de l'Éternel, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. Moi je viens au nom de Dieu. Tu vois, je ne passe rien comme arme. Laquelle je vous rouge, 5 pierres de la Torah. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir. Je t'abattrai, je te couperai la tête et je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. On voit qu'il n'a pas peur, il parle, il n'a pas peur. Afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël, je me bats pour Ichoud Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Et toute cette multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Que l'Éternel est le maître de la guerre et vous livrera en notre pouvoir. Toute cette multitude faire Kiddush Hashem, tout le monde va voir que Dieu n'a pas besoin d'épée, t'as une épée, et alors, qu'est-ce que t'as avec ton épée par rapport à Kadosh Baruch Hu? Saddam Hussein envoie des scuds sur Israël. 39 scuds, 350 kilos, chaque bombe. 10 000 appartements détruits. Que fait Am Israël? Pour une fois, ils se mettent tous à prier ensemble pendant 4 minutes. On prie des milliers, on prie à Dieu. Alors, avec ses scuds, on les fait comme ça. Qui t'es, Saddam Hussein, contre Kadosh Baruch Hu? T'as un scud qui tombe dans une maison avec des dizaines de personnes, tout explose et t'as pas un mort. Ah comment? Dieu, il y a un problème, Dieu. Et David, il court. Il prend la fronde, tchac, envoie la pierre. Une pierre ne peut pas pénétrer du fer. Elle pénètre le fer. Une bombe de 350 kilos qui tombe dans un appartement où il y a 50 personnes, un immeuble, il n'y a pas un qui sort vivant. Cloubrou, il fait comme ça, il y en a 50 qui sortent vivants. Un qui tombe sur une base américaine en Arabie Saoudite de Scud fait 200 morts. Comment ça se fait? On prie à Dieu. On a prié qu'à Dieu. C'est rien à faire contre les scuds. Aucun missile anti-missile, les patriotes, rien à faire. Attends, comme ça, fait rien. Ah, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prie. L'Israël arrive au bord de la mer Rouge et il voit les vagues en pleine nuit de 10 mètres de haut, bloquées. Ils apprennent que tout coup, derrière, Pharaon les poursuit. L'armée égyptienne, c'est la Gestapo. Vont les rejoindre. Le texte dit, va dire, ou mais ils ont été terrorisés. Rachis sur place, Chazal nous disent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Itreskoub ou manout avotehem. Ils ont pris la profession de leurs ancêtres, la prière. Baitsako el Hashem. Alors ils ont tous crié à Dieu. Tout âme Israël. À l'unisson ensemble qui crie à Dieu. T'es un papa. Tes enfants qui tous viennent d'un coup, te supplient en larmes. Tu fais quoi? Tu dis non? Allez vous faire voir? C'est un père ça? Avinu Shebashamay. David y va. Il est proche de Dieu. Il sent qu'il est le fils de Dieu. Va maintenant pour toi Dieu. Miracle, la pierre pénètre l'armure et tomberait de mort. Il vient David, prend l'épée de Goliath, lui coupe la tête. Et les Juifs attaquent les Philistins, tout se passe pas en fuyant. Et Baruch Hashem, une grande victoire. Pendant qu'il est en train de courir vers Goliath, Shaul pose la question à son général, Avner Ben Ner. Dis-moi, Avner, c'est qui celui-là? D'où il vient? Razor pose la question, comment, d'où il vient? Ça fait quelques mois qu'il est chez toi, il joue de la harpe, il te calme tous les matins, d'où il vient, qui c'est celui-là? Shaoul a compris que cet homme-là allait devenir le roi d'Israël. Et c'est lui le roi, Shaoul. Il ne va pas être roi à la place du roi. Est-ce qu'il est Hagoun et Malchut? Est-ce qu'il peut être roi? Pas n'importe qui peut être roi. Certaines professions que quelqu'un a eues, il peut pas être roi après. Il faut être quelqu'un de bonne famille, etc. Un autre ministre qui est là intervient et dit, avant de poser la question, Sa Majesté, s'il peut être roi, pose la question, est-ce qu'il a le droit de se marier avec une juive? Et descendant de Ruth à Moabite. Or la Torah dit Moabi, le Havre Mikalachem, ne pourra pas se marier. Un autre ministre vient et dit, oui, mais il y a une question. Moabi et pas Moabite. Pourquoi Moabi, pas Moabite? Qu'est-ce qu'on a dit l'autre jour? Parce que, pourquoi la Torah dit qu'un Moabi ne peut pas se convertir? Parce que, Asher lo kilmotrem balechem ovamaim, parce qu'ils ne sont pas venus vers vous avec le pain et l'eau. Or, c'est qui doit sortir et aller donner le pain et l'eau? Les hommes, pas les femmes. Les femmes restent à la maison. Doeg, c'est lui le ministre qui a dévoilé qu'il était fils de Moabite. Il dit, je ne suis pas d'accord. Les hommes doivent sortir vers les hommes et les femmes vers les femmes. Ce n'est pas à Tzniout que les hommes sortent vers les femmes. Donc les hommes devraient sortir vers les hommes et les femmes vers les femmes. Donc et Moabi et Moabite sont responsables de ne pas avoir amené du pain et de l'eau au peuple juif. Donc les deux ne peuvent pas se marier avec des juifs. Donc David ne peut pas se marier. David sait ce qui se passe. La Ruach HaKodesh. Il écrit le Tehillim suivant. Kouf Yutet, 119, lettre Shin. Sarim Radufuni Chinam, les ministres me poursuivent pour rien. Umidvarcha pahad libi, de ta parole, davar, midvarcha, ton dibour, pahad libi. Je suis terrorisé. Sas anochi al imratecha kemose shalal rav. Je suis heureux de ta imra, de tes paroles, comme si tu trouvais un gros butin. La Gaon de Vilna fait un très beau chidouche là-dessus. Il dit donc, les ministres sont en train de parler sur moi, pour rien, gratuitement. Ils me poursuivent. Midvarcha pahadibi, je suis terrorisé de ton dibour. Sas anochi alimrater, je suis très heureux de ta imra. Imra, c'est ta parole. Dibour, c'est parole. Imra, c'est parole. Alors, je vois pas, tu es terrorisé ou tu es très heureux? Il y a deux paroles de Dieu. Il y a Torah Shibirtav, la Torah écrite, Torah Shibalpe, la loi orale. La loi écrite, c'est marqué, il n'y aura pas de Moavi qui peut se marier avec un juif. Alors, pas de différence, Moavi, Moavite, on inclut tout le monde. Shaoul est en train de discuter maintenant avec les ministres, alors oui ou non? Vient un ministre en courant, il dit, moi je sais, j'ai reçu une Kabbalah ancestrale, Torah Shebaal Peh, de loi orale, Moavi, velo Moavite. Un Moavi ne peut pas, un mâle ne peut pas se marier avec une femme juive, mais Moavite. Une femme moabite peut se marier avec un juif. Donc David, il est permis, il peut devenir roi d'Israël. Ce que dit le roi David. Sas anochi al imratecha, je suis heureux de ta parole de Imra, c'est Torah Shebaal Peh, la loi orale, la tradition orale qui a dit Moavi lo Moavi. Il court vers Goliath, le roi David. Et Chazal nous dit qu'à ce moment-là, il a composé le Tehillim qu'on lit très souvent ici à la Yeshiva, très connu, 121. Shira Maalot, cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tutélaire. À ma droite. Je lève la main, il lève la main. Je suis proche de Dieu, il est proche de moi. J'ai confiance en lui, il me donne pour la confiance. Quand on a des épreuves, j'ai expliqué comment on fait pour réussir l'épreuve, on se remet à Dieu. Comme ça, je n'ai pas de soucis. Et non seulement c'est un moyen de calmer la douleur et calmer l'angoisse, mais en plus c'est ça qui fait qu'on réussit vraiment, que Dieu fait passer l'épreuve. Tout le but de l'épreuve, c'est quoi? Tu te remets à Dieu. Alors quand tu as du bitachon, ça veut dire ta sécurité en Dieu, tu te sens comme un nourrisson dans les bras de sa mère, qu'est-ce qu'il fait que je vous retrouve? Même chose. Tu te mets dans mes bras, tac, Dieu t'a pris là, qu'est-ce qu'il dit? Il va te lâcher. Quelqu'un dit, je me débrouille seul. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse... Dieu veut que tu te débrouilles. Ok, moi je n'existe pas. Vas-y, débrouille-toi. Je veux que tu reviennes. Alors, des claques, tac, 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 tac. Le type, il continue. Le jour où le type, il dit, Dieu, allez, hop, il saute, tac, dans les bras de Dieu. Ah! Tu te mets dans mes bras, je m'occupe de toi. Le bitachon, la foi en Dieu, ça amène que l'épreuve disparaît. Mais il faut un vrai bitachon. Vu que j'ai confiance en Dieu, il n'y a rien qui se passe. Raphaël a dit sur Internet que lorsqu'on a confiance en Dieu, alors les épreuves, ça fait 6 mois que je suis en train de galérer, j'ai confiance en Dieu, rien n'arrive. Eh, confiance, c'est confiance. Une fois, ça me rappelle une histoire authentique, le Rav de Brisk a parlé de la confiance en Dieu. Il a dit, si quelqu'un a confiance, alors vraiment, ça marche. Dieu, il donne en conséquence. Un jour, quelqu'un est venu voir l'ordre, parce qu'il dit, c'est vrai que si on a confiance en Dieu, alors forcément, vraiment, on a confiance, alors les choses se réalisent comme on a confiance. Oui. Bon, ben, je vais aller maintenant acheter un billet de loterie. Et j'ai une confiance aveugle que j'ai gagné. Le gros lot, 1 million. Le brice a dit, si tu as confiance, tu auras 1 million. Tu sais, le bras du rave. J'y vais, il achète le billet. Dans 3 semaines, c'est... La loterie, les résultats. Tout le monde s'attend, il va faire 1 million, oui ou non. La veille, le jour de la loterie, le Rav de Brisk envoie un émissaire chez le type qui a acheté le billet, lui dit, écoute, le Rav de Brisk est prêt à t'acheter ton billet de loterie pour 500 000 cash. Maintenant. 500 000 cash maintenant? Mieux vaut maintenant 2 millions. Certain que peut-être demain 1 million. J'accepte. Alors le Rav de Brisk, qu'est-ce qu'il dit alors? T'as confiance en Dieu ou pas? Moi j'ai une confiance totale. C'est la confiance totale que t'es la gagne de 1 million. Comment t'es prêt à vendre maintenant 1 million contre 500 000? T'es prêt à prendre 1 million comme ça pour rien? Tu vois que t'as pas confiance. Les gens croient qu'ils ont confiance, mais il ne faut pas être imaginatif. La vraie confiance de Dieu se fait dans l'épreuve. Dans quelle mesure, quand tu es dans l'épreuve, tu restes serein et tu te tournes vers Dieu. David a eu une vie de douleur et d'épreuve, dont il sait, il est serein. Donc il court vers Goliath. Et il dit... Il ne s'endort ni sommeille celui qui est le gardien d'Israël, car c'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tu t'élèves. Je suis proche de lui comme une ombre, alors lui aussi. Quand j'ève la main, l'ombre aussi se lève, c'est donnant-donnant. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie, que le Seigneur protège tes allées, tes venues désormais et durant l'éternité. On va s'arrêter ici, et la suite au prochain numéro. Baruch Adonai l'Olam, Amen.